Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado d'LNH.com. Nicolas Ducharme au micro, je vous parle en ce 25 février au Québec sous la neige ce matin. Donc oui, l'hiver n'est pas terminé. Est-ce que ça sent le printemps? Je sais qu'il y a quelques petits rongeurs, marmottes ici et là qui ont dit que oui, ils ont vu le rhombe ou peu importe, mais ce qui annonce réellement le printemps, c'est pas des marmottes. C'est la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey qui s'en vient le 6 mars. Dans 10 jours, on va être fixé hein, avec les Olympiques puis tout ça, tout ce qui s'est passé. On dirait qu'on était un peu déconnecté de l'action dans la Ligue nationale, de la date limite des transactions. Normalement, les autres années, on serait en pleine discussion depuis déjà 2-3 semaines. On aurait eu quelques transactions. Mais là, avec la réalité du calendrier condensé, plus la longue pause et le fait qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont encore dans la course pour ces éliminatoires. On a un portrait du marché des transactions qui est vraiment différent cette année. On va parler de ça aujourd'hui à l'émission avec Guillaume Lepage et avec Hugues Marcel qui vont être avec moi, mes collègues à LNH.com. On va parler de tout ça. Avec Guillaume, on va parler beaucoup de ce qui se passe avec le retour au jeu chez les Canadiens parce que oui, le jeu, l'action reprend ce soir dans la Ligue nationale de hockey, demain pour les Canadiens. Guillaume est allé aux sources, est allé parler aux joueurs, aux entraîneurs, tout ça pour savoir ce qui se prépare pour la suite des choses, pour les prochains jours, d'ici à la date limite des transactions, comme j'ai dit. Parce que tu signes 3-4 victoires de suite d'ici dans les 10 prochains jours, ça peut changer dramatiquement tes actions à la date limite. Donc, ça va être vraiment à regarder. Donc, on va parler avec Hugues aussi. Je vais parler les principaux joueurs qui pourraient changer d'adresse, les stratégies que les équipes, telle ou telle équipe vont adopter. On va peut-être même y aller d'une prédiction, une transaction qu'on verrait qui serait réaliste. Donc, écoutez tout ça. Ça va être en deuxième partie d'émission. Avant de se lancer, bien, je vous invite, si vous nous écoutez sur le LNH.com, sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute à peu près qui peuvent exister. Là, faites une recherche, la tasse de café LNH. Vous allez nous trouver. Abonnez-vous parce que des balados, on en a fait plusieurs dernièrement avec les Jeux olympiques. Jean-François Chaumont qui était avec nous durant tout le périple olympique en direct de Milan, qui nous a parlé de ça, qui vous a parlé. Vous avez été nombreux à l'écoute. Merci beaucoup. Les Olympiques qui sont terminés. GF en pause aujourd'hui. Pas de GF, une petite vacance. Justement, comme je dis, abonnez-vous parce que des balados, on va en avoir ici et là pour être certain de n'en manquer aucun. Alors voilà, on lance l'émission. Je les accueille avec moi, le premier. Vous le connaissez bien, Guillaume Lepage. Salut, Guillaume.
Salut, Nick.
Ça va?
Ça va très bien. On est reparti, là.
On est reparti. Ça recommence aujourd'hui.
Ça recommence.
Comme j'ai dit dans mon intro. Et l'autre, Hugues Marcel. Salut, Hugues.
Salut, Nick. Salut, Guy.
Salut, Hugues. Bon, Hugues, fait un petit bout que tu n'étais pas venu sur l'épisode. Ouais. Ça se peut aussi que ça prenne un petit bout avant que tu reviennes parce que ça se pourrait que Hugues s'en aille en plein milieu de podcast parce que Émilie, sa conjointe, est sur le bord d'accoucher. Donc,
impossible.
C'est pas impossible qu'on ait à baptiser quelqu'un des petits enfants d'ici la fin du balado. Mais bon, merci d'être là ce matin. On a donné congé à JF là, qui. Pauvre GF là, qui a dû passer par Miami pour revenir après ça vers Montréal après les Olympiques. Donc, GF congé
Je l'ai vu hier. Je m'ennuyais trop. On a passé la soirée ensemble. Je suis allé prendre une petite bière chez lui. Ça fait trop longtemps là, qu'on n'a pas passé de temps ensemble. Puis il y avait des bonnes anecdotes des Jeux Olympiques et compagnie. On a fait le point là, avant de se retrouver demain au Centre Bell pour le match canadien.
T'es-tu un peu blême ou il a repris des couleurs?
Ben, il y a un petit tout. Hein? Après 3 semaines dans un aréna, c'est ce que ça fait. Donc, on va souhaiter que ça soit pas trop grave et qu'il soit à son poste dès demain. Là.
Tu rajoutes là, l'avion avec ça en plus. Dans l'avion, là, bon incubateur à microbes. Là,
il me disait le Montréal-Milan. Le Milan-Montréal est 8 heures, mais là, on a changé les plans à cause de la tempête. Là. Jeff était supposé retourner à New York. Là, il s'est tapé un beau voyage de 11 heures. Top chrono. Pour aller jusqu'en Floride. Le lendemain, il est revenu.
Il revenait avec l'équipe Canada. Là. Donc,
exact.
On faisait la blague, mais tu sais, les shots de caméra à l'aéroport, les joueurs viennent, tu aurais GF en arrière qui fait des tatas. ça aurait été bon. Et finalement, ils ont atterri à Miami à la place. Hey, les gars, on se lance parce que ça va vite. Tu l'as dit, Guillaume, ça repart pas à peu près chez les Canadiens, toutes les équipes de Ligue nationale. C'est 25 matchs en l'espace de 47 jours qui attendent le tricolore d'ici à la fin de la saison. Ça part jeudi, demain, contre les Islanders de New York, ensuite les Capitals de Washington. Puis ensuite, on s'en va dans l'Ouest pour un voyage contre San Jose, contre les Ducks d'Anaheim, puis contre les Kings de Los Angeles. Trois équipes qui essayent de participer aux séries éliminatoires, il va y avoir du défi là. Déjà, à partir d'un voyage dans l'Ouest, c'est jamais facile. Mais là, en plus, tu affrontes des clubs qui essayent d'être dans les séries éliminatoires. Ça sera pas de tout repos. Vous attendez à quoi, Guillaume? Tu es allé aux pratiques dernièrement. Tu t'attends à quoi de cette équipe-là? Est-ce que tu vois une équipe qui a faim? C'est une équipe qui n'a pas perdu une tonne de joueurs aux Olympiques versus d'autres qui en ont perdu 5, 6, 7. Tu sens comment? Et quoi? Et comment, comme on dit là, chez les jeunes, la vibe présentement là, chez le tricolore?
Ben, je pense qu'on a hâte de recommencer à jouer. Là. Hier, Samuel Montembeault parlait de... Il avait l'impression d'être dans un mini-camp là, avant le début de la saison parce que c'est quand même une longue pause. Là. C'est 3 semaines, un peu plus de 3 semaines. Les joueurs ont pris quand même, je pense, la moitié de cette pause-là pour décrocher, aller soit dans le sud, passer du temps en famille, recharger les batteries mentalement. Puis depuis une semaine et demie, on est de retour sur la patinoire à Brossard. Puis ce que je trouvais intéressant, c'est Martin Saint-Louis hier disait... On utilise beaucoup la science, puis les suivis de performance et compagnie, c'est tous les nouveaux éléments là, qui peuvent nous servir à monitorer, surveiller le niveau de conditionnement des joueurs, parce que on le sait, tu viens de le dire, c'est une fin de saison complètement, un rythme complètement effréné.
Mm-hmm.
Donc, cette équipe-là doit repartir sur de bonnes bases, doit repartir pas mal au sommet de leur forme. Il faut que la batterie soit pleine avant de partir. Donc, mis à part ceux qui sont allés aux Olympiques, un Slavkovski, un Nick Suzuki qui n'était pas sur la patinoire hier, qui devrait l'être là, plus tard aujourd'hui. Le reste, je pense qu'on a pris le temps de se reposer premièrement, puis deuxièmement, de peaufiner certains détails. Donc, moi, je m'attends à ce que l'équipe soit encore une coche meilleure qu'elle l'était avant de partir, parce qu'on a eu le temps justement de peaufiner les détails dans une saison au cours de laquelle on n'a eu aucun temps pour faire ça en première moitié. Mm-hmm. Le nombre de pratiques était vraiment très, très limité. Donc, ça donne un petit reset en plein milieu de la saison. Je m'attends à ce que l'équipe soit meilleure.
C'est là que de ne pas avoir envoyé Cole Caulfield et Lane Hutson aux Olympiques, ça va être payant. Là.
Non seulement aux Olympiques, mais au club à Miami, puis toutes les célébrations qui ont suivi. Là, je pense que c'est...
Ouais, c'est ça, une certaine Maison Blanche et tout ça. Mais bon, c'est dommage pour eux, là, bien évidemment. Là, on aurait bien aimé avoir une médaille d'or, mais c'est une belle position pour le tricolore, cette pause-là, cette longue pause-là. En plus, on le sait... Cette équipe-là a quand même une bonne chimie. Les gars, oui, ont pris une semaine de vacances. Il y en a qui sont allés dans le sud. Lane Hutson est probablement, pendant ce temps-là, le meneur de la ligue de garage de Carignan ou je ne sais pas où, parce que il y avait un Léonard Hudon qui a été ramassé 50 points en 6 matchs dans une ligue de garage quelque part parce qu'il ne pouvait pas se retenir de jouer. Mais c'est une équipe qui est quand même assez serrée. Puis je pense que dans un contexte comme ça où on a eu une longue pause, mais qu'on est au travail depuis déjà plusieurs jours, il y a du positif à partir là-dessus. Là. Versus une équipe qui va revenir puis peut-être même un petit peu déchirée. Là. Je regarde certains clubs où il y avait des Américains, des Canadiens. C'est peut-être un gros mot, déchiré, mais vous comprenez ce que je voulais dire. Il va y avoir des petits restants d'Olympiques qui vont être là.
Mais souvenez-vous, l'année dernière, après la confrontation des quatre nations, un joueur comme Nick Suzuki, qui n'était pas allé avec le Canada, avait été, au retour de la confrontation des quatre nations, je pense, un des meilleurs pointeurs de la Ligue nationale. De la confrontation des quatre nations jusqu'à la fin de la saison, je me souviens plus exactement il était où, mais il était certainement parmi les meilleurs pointeurs. Donc moi, je pense que la pause va vraiment avoir cet effet-là sur des gars comme Cole Caulfield, sur des gars comme Lane Hutson. Bon, je sais pas si Lane Hutson peut être meilleur que ce qu'il est déjà. Il est déjà extrêmement dominant, mais je pense que ça va avoir un effet. Peut-être comme des gars comme Demidov, on le sait, c'est une saison recrue, c'est toujours difficile. On arrive, tu sais, au mois de janvier, février, on arrive dans des mois qui sont difficiles pour une recrue. Souvent, on pogne un mur en bon français. Bon, Demidov jouait très bien avant la pause, mais je dirais peut-être que cette pause-là va justement l'aider à aller chercher un second souffle, à être encore meilleur ou à tout le moins continuer sur sa lancée en deuxième moitié de saison, un peu comme on l'a vu pour certains joueurs, les Canadiens, l'année dernière après la confrontation des Quatre Nations. Moi, j'ai aussi hâte de voir un gars comme Stavkovski. Oui, il est allé aux Olympiques, mais il était tellement dominant aux Olympiques, il a transporté littéralement lui puis le gardien Lavrin de la Slovaquie. C'est les deux joueurs qui ont transporté l'équipe jusqu'au match de la médaille de bronze. Donc, j'ai hâte de voir quel effet ça va avoir sur lui. Je pense que ça va probablement y avoir insufflé énormément de confiance. Même chose pour un gars comme Suzuki qui jouait déjà très bien de toute façon, qui était le leader offensif de cette équipe-là. Mais comme Guy l'a dit, je pense que avec le repos, l'équipe est vraiment, vraiment, vraiment en bonne posture, même avec le calendrier qu'on a. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner.
Vous avez dit le mot repos, il y a aussi le mot bobo. Présentement, presque tout le monde est en santé ou sur le bord de revenir au jeu. Alex Newhook qui va revenir, qui s'approche vraiment d'un retour au jeu. Il y a un Patrick Laine qui est là. Vous regardez, il doit y avoir du monde là, sur la glace à Brossard présentement. Guillaume, c'est quoi, on sent comment les formations, les trios... Pour le premier match, mais surtout pour la suite, avec 25 matchs autant de jours, 25 matchs en si peu de jours plutôt, ça va être quoi la stratégie de Martin Saint-Louis au niveau de l'utilisation? Est-ce qu'on ramène Patrick Laine dans la formation? Alex Newhook, on l'utilise comment? T'as un Zachary Bauduc puis un Joe Veleno qui jouait pas beaucoup quand on est arrivé à la pause. Comment on brasse les dés présentement?
Ben, c'est un beau problème du côté de Martin Saint-Louis. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant de profondeur, qu'on n'a pas pu entrer et sortir des joueurs de la formation. Je m'attends à ce qu'Alex Newhook revienne dans la formation. On va peut-être avoir une confirmation un peu plus tard aujourd'hui là, quand l'équipe va sauter sur la patinoire à Brossard. Hier, il n'y a pas eu de trio.
Tu t'en vas à la pratique dans pas très long, en plein milieu de la petite tempête de neige qu'on a. Là, c'est d'ailleurs pourquoi tu ne fais pas tout le balado aujourd'hui, là, parce qu'il faut que tu ailles t'amuser en raquette. Là, mais pour le reste, on va avoir des réponses.
Non, c'est ça. On va avoir une petite idée de l'équipe qui va affronter les Islanders jeudi. Hier, on a ouvert la porte du côté de Martin Saint-Louis au retour d'Alex Newhook. La question portait sur Newhook et Laine. Puis il a dit qu'il s'attendait à ce qu'un des deux, au moins, soit disponible pour le match de demain. Le cas Laine, je pense que ça commence à traîner en longueur. Là. Il s'entraîne sans difficulté depuis quand même un assez long bout.
Officiellement, il n'y a pas le feu vert. C'est ça qu'il faut comprendre.
C'est ça. Mais il a l'air d'un gars qui est prêt à jouer. Je ne sais pas comment on va gérer ça, mais c'est certain que là, il y a une question de salaire aussi, de masse salariale qui entre en ligne de compte si Patrick Laine quitte la liste des blessés. Donc, c'est quand même un dossier chaud du côté de Kent Hughes, mais dans les dossiers plus faciles, je pense qu'Alex Newhook va reprendre sa place dans la formation. Puis là, on peut penser à un Joe Veleno qui pourrait sauter son tour à ce moment-là. Tu as parlé de Zachary Bauduc. Je pense pas nécessairement qu'il est dans les cartes pour justement se retrouver sur la passerelle parce que on se souvient, avant la pause, là, Martin Saint-Louis l'a encensé quand même à plusieurs occasions. Là, il parlait de son jeu défensif puis de la façon dont il s'améliorait de match en match puis qu'il comprenait le système maintenant et tout ça. Donc, je pense pas que Zachary Bauduc est en danger, mais un gars comme Joe Veleno, je pense que ça pourrait être un candidat qui pourrait sauter son tour. Il y a aussi Alexandre Texier qui était blessé avant la pause. Là, on se retrouve avec beaucoup, beaucoup d'éléments, des choix, des décisions à faire. Puis ça, c'est parfait, là, avec le rythme dont tu parlais. Mm-hmm. Je vois pas de problème là-dedans. Je pense qu'on peut y aller avec un système un peu d'alternance parmi les gars qui sont 12e, 13e attaquants. Puis après ça, ça va juste être bon pour l'équipe de pouvoir garder ses énergies puis d'alterner entre ces éléments-là.
Et on parlait de Zachary Bauduc. Ceux qui se demandent, on ne peut plus l'envoyer dans la Ligue américaine de hockey sans le faire passer par le ballottage. Donc, ceux qui disaient c'est le temps de l'envoyer dans la Ligue américaine, si ça avait été à faire, ça aurait été fait avant la pause là, parce qu'il a disputé son 160e match en carrière dans la LNH. En tout cas, c'est ce qui a déclenché son admissibilité le 3 février, fait que tout juste avant la pause. Donc, si on avait eu à l'envoyer dans la Ligue américaine, ça serait déjà fait. Donc, on va vivre avec Zach Bauduc en haut. Puis on va lui donner les chances de performer, comme tu dis, Guillaume. Juste en terminant sur le dossier des formations, gardien, t'es confiant, t'es pas confiant? Samuel Montembeau, tu signais un texte hier où tu faisais un parallèle avec ce qu'il avait fait après la confrontation des Quatre Nations l'an dernier, après une longue pause. Tu t'attends à quoi?
Ben, c'est certain que le Canadien espère que ce soit le même effet sur Samuel Montembeau. Tu sais, il avait participé à la confrontation des Quatre Nations, mais il l'avait fait comme troisième gardien, puis il avait passé beaucoup, beaucoup de temps sur la patinoire à faire du temps supplémentaire, à travailler avec l'entraîneur des gardiens. Puis je pense que c'est le même scénario qui s'est reproduit un peu. Là. Puis en plus, avec l'arrivée de Marco Marciano juste avant la pause, ben là... Mm-hmm. On s'est permis du côté du Canadien de donner à Montembeau puis à Marciano et à Dobesch aussi d'avoir une bonne semaine et demie de travail vraiment sur les détails du jeu puis vraiment en voir où on en est puis voir ce qu'on va améliorer. Donc moi, je vois ça d'un très bon œil. L'an dernier, Montembeau, avant la pause, c'était une moyenne de 3 buts alloués, une efficacité de 897. Après la pause, ça a été 2,48 de moyenne, 912 d'efficacité. Donc on avait vraiment vu... L'amélioration, au même titre, je veux dire, ça avait suivi les performances de l'équipe aussi. Là. Je pense qu'on ne sera pas de cachette, c'était pas seulement Montembeau, mais non. Il y a eu quand même un gros mot à dire là-dedans. Donc, du côté du Canadien, je suis certain que si le même phénomène se reproduit, il n'y a personne qui va s'en plaindre là, pour la fin de la saison.
Oui, puis là, on va avoir bien évidemment, on va regarder la course aux séries. Je regardais juste dans les 25 matchs qu'on a joués, puis tout ça, les Canadiens ont la 8e. C'est cédule la plus difficile de la Ligue nationale de hockey quand on regarde le pourcentage de victoires, de points des autres équipes. Mais devant eux, ceux qui ont les cédules, j'aime pas le mot cédule, je sais pas pourquoi, les calendriers les plus difficiles, ben c'est Buffalo, c'est Détroit, c'est Columbus. Fait que c'est des équipes qu'on se bat contre pour une place en séries éliminatoires. Il y a même Boston aussi qui a le deuxième pays calendrier. Donc, ça va être vraiment serré. Il n'y a pas vraiment le Canadien n'est pas désavantagé d'ici la fin de la saison. Bon, date limite des transactions vendredi prochain, Guillaume. Les Canadiens, c'est une équipe qui va bouger, qui peut bouger. Ou est-ce qu'on est encore au point où on a été chercher Philippe Danault, on a comblé des trous. Les autres trous sont peut-être trop gros, trop coûteux à combler. En pleine saison, probablement plus l'été prochain, tu vois ça comment?
Ben, je vais revenir sur ce qu'on a dit il y a quelques balados. Je pense pas que le Canadien peut aller en série avec la brigade défensive qu'il a en ce moment. T'es à un blessé de devoir à envoyer sur la patinoire à chaque match Jaden Struble, Arber Jacky. Ce sont des gars qui rendent des services très honnêtes à l'équipe, mais en séries éliminatoires, tu veux quand même t'assurer d'avoir une bonne option en défensive. Donc, pour moi, la priorité, c'est vraiment un défenseur d'expérience pour justement stabiliser les choses défensivement. Puis après ça, ben moi, ce serait un bonus d'aller chercher un attaquant top 6, mais tu sais, c'est tellement difficile. Je veux dire, ça va coûter la peau des fesses, comme on dit ici. Puis, il y a tellement de roulements en ce moment. T'sais, on en parlait. Il y a tellement d'options. Je veux dire, oui, il existe de meilleures options que ce que le Canadien a sous la main en ce moment, mais là, ça va devenir une gymnastique un peu plus difficile. C'est certain que tu vas donner des éléments si tu veux recevoir un bon joueur, mais ça pourrait devenir un petit peu plus compliqué à l'attaque. Donc, pour moi, je regarde vraiment du côté de la défensive. Je pense qu'il faut de l'aide de ce côté-là. Puis, j'ai aucun doute que Kent Hughes va bouger parce que oui, on est encore dans le processus de reconstruction, mais techniquement, si on veut progresser là-dedans, ben il faut participer aux séries éliminatoires puis peut-être faire un bout de chemin un peu plus long que l'an dernier. Donc, est-ce que tu es dans une position pour le faire? Oui, l'équipe a bien fait en première avant la pause, puis on s'attend à ce qu'elle continue de le faire en deuxième moitié de saison, mais pour passer à la prochaine étape, il faut un petit peu d'aide. Puis je pense que le DG voit clair là-dedans. Puis n'hésitera pas à bouger. Là. Je pense qu'on a quand même assez d'options, assez d'atouts dans notre manche, là, côté espoir, côté choix, pour être capable d'améliorer cette équipe-là pour cette saison, puis peut-être pour les prochaines, parce qu'on sait que Kent Hughes aime les transactions qui lui permettent de mettre la main sur un joueur qui va aider là, mais aussi pour une, deux, trois années à suivre. Là.
L'autre point qui me laisse croire que ça va bouger, quand tu regardes l'utilisation, le temps d'utilisation de Jaden Struble d'Arber Jacky avant la pause, je pense que Martin Saint-Louis a lancé son message. Non, je leur fais pas suffisamment confiance pour leur donner 10 minutes en saison. Imagine en séries éliminatoires. Donc, je veux dire, le message a été lancé par Martin Saint-Louis. Tu parles d'un défenseur 5-6. Qui t'as en tête comme nom? Quel joueur verrais-tu, Hugues aussi, là, bien évidemment, quel joueur, qui seraient les fits parfaits Puis comme tu dis, qu'ils vont coûter beaucoup trop cher. Ça va être ça la réalité, peu importe qui on va chercher. Là.
Ben, c'est sûr que, tu sais, si tu regardes un, peut-être un, on en a parlé un peu avant le balado, mais un Luke Shen, un gars comme peut-être un Connor Murphy chez les Blackhawks de Chicago. C'est ça, c'est difficile à dire. Ça, c'est des, si je me trompe pas, c'est des gars qui deviennent joueurs autonomes après la saison. Donc, moi aussi, j'ai hâte de voir. Kent Hughes a semi l'air dans le marché des joueurs de location. Honnêtement, moi, un peu comme Guy me dit, je le vois pas aller chercher nécessairement un t'sais, donner beaucoup d'actifs, mais disons un choix de première ronde ou un bon espoir pour un gars qui va garder 3 mois, faire une run en série, puis après ça, on le perd sur le marché des joueurs autonomes. T'sais, moi, je le verrais peut-être plus faire une transaction un peu comme il avait fait à Alexandre Carrier, un peu là, aller chercher un gars qui est encore sous contrat, qui va donner un peu de millage encore canadien pour les prochaines années. Mais ouais, peut-être un Connor Murphy à Chicago, tu sais, un gars, je veux pas dire un gars plate, mais tu sais, un gars...
C'est ça que ça te prend, un gars plate, là.
Ouais. Un gars plate, c'est sûr, parce qu'on l'a vu, tu sais, dans les derniers matchs, Jacka avant la pause, là, il y a des matchs qu'il jouait... Il jouait pratiquement pas, faisait des j'ai pas son temps juste sous les yeux, mais je faisais quelques présences dans le match et c'est tout. On sentait vraiment Martin Saint-Louis très, très, très picky, si je peux me permettre, sur les confrontations dans lesquelles il envoyait Jacky. Mais sûr, pour les noms, c'est un peu difficile, les noms, là, dans le sens où on va tous regarder les mêmes gars, les gars qui deviennent joueurs autonomes à la fin de la saison. Mm-hmm. Mais bon, j'entrevois vraiment un défenseur à caractère défensif, shutdown, capable de jouer plusieurs minutes.
Un joueur que je verrais, c'est Jamie Oleksiak. Mais Jamie Oleksiak...
Un gars dans ce profil-là, oui.
Moi, mais le Kraken est en série présentement. Puis c'est ça que je disais dans l'intro, là, avant de vous accueillir, les gars, c'est que le portrait est tellement serré présentement, la prochaine semaine va peut-être faire décider que les équipes se rangent dans le camp, mais je pense pas un Mario Ferraro là, devrait être un joueur comme ça qui devrait changer d'adresse présentement. Les Sharks sont pas si loin que ça. Est-ce qu'on va vraiment les échanger? Je suis pas certain, là.
Non, puis tu dis dans une semaine, mais depuis le début de la saison, on dirait que dans une semaine, on va avoir un portrait plus clair. Finalement, ça reste, en tout cas dans l'Est, là, du côté de l'Ouest, ça s'est séparé un peu, là, mais tu sais, dans l'Est, c'est très, très serré. C'est dur de dire, OK, cette équipe-là va abandonner, va se mettre à vendre ses joueurs, ses actifs. Mais Kent Hughes a le don de nous surprendre avec ses transactions. Là, c'est rarement des joueurs dont on entend le nom pendant des semaines avant que ça se produise. C'est des joueurs. Alors, Alexandre Carrier, il n'y a personne qui parlait d'Alexandre Carrier.
Non, parce qu'il était sous contrat avec Nashville.
Ouais, exact. C'est vraiment. Puis je pense que c'est de ce à quoi il nous a habitués. Kent Hughes aime plus ce genre de transaction-là où il peut amener quelque chose à son noyau puis le garder pour les années à venir, tu sais, parce que la culture est quelque chose d'important pour cette organisation-là. Puis là, d'amener des joueurs qui vont boucher des trous pour 3 mois, je pense pas que c'est vraiment dans la vision de l'équipe. Il pourrait le faire. Remarque peut-être que l'an prochain, dans 2 ans, quand on va cogner à la porte d'un long parcours en série, là, peut-être qu'on va changer un peu la façon de voir, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, on va plus y aller pour une transaction hockey qui va nous aider cette année, mais aussi l'an prochain, puis l'année d'après.
Ah, plus les Canadiens, tu disais, ont tous leurs choix dans les 4 premières rondes pour les 3 prochaines années. Il y a des espoirs en masse, donc c'est une belle situation pour réellement un... Il n'y a pas de terme en français, là, sign and trade, là, ou peu importe, là, de signature et échange, là, ou échange et signature, mais tout de suite de mettre sous contrat le gars que tu vas aller chercher. Tu vas le payer peut-être plus cher en saison, mais tu vas l'avoir pour 4-5 ans. Qui a fait ça? Rasmus Anderson? Est-ce que Rasmus Anderson a signé, je crois? Jean Blanc, quand on a été chercher du côté de Vegas. Tu te souviens-tu, Hugues?
Jean Blanc, écoute, avec la pause olympique, Nick.
Ouais, je le sais, moi, tout. Là. Moi aussi,
on dirait que ça fait un an qu'il y a eu des matchs.
Non, il n'est pas encore signé, Rasmus Anderson.
OK, bon, je n'étais pas sûr. Signé, Mitch Marner, peu importe de qui on
parle. Ça reste le modus operandi de Vegas, un peu, d'aller chercher ces gars-là puis de les signer à long terme tout de suite après. Fait que c'est pas possiblement ce que Kent Hughes va chercher à faire. Moi, je suis convaincu.
On va suivre ça du côté des Canadiens. Écoutez, on aurait aimé ça en parler encore plus longtemps, mais faut te laisser aller. Guillaume, tu t'en vas à l'entraînement des Canadiens. Tu vas être avec l'entraînement des Canadiens ce matin. Tu vas pouvoir aller ton texte sur lnh.com. Ce qui s'en vient, comme j'ai dit, ça recommence jeudi. Tu vas être avec GF sur la galerie de presse si finalement il est pas trop ballon parce qu'il a mangé trop de pâtes du côté ou de pizza du côté de l'Italie. Il va avoir un petit accent, mais bon. Dans GF, toi, vous êtes de retour au travail. Comme tu as dit, Hugues, ça fait longtemps, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de hockey, de Ligue nationale de hockey. Ça recommence jeudi et les gens vont pouvoir t'aller. Un gros merci d'avoir été avec nous ce matin. Attention sur la route ce matin, Guillaume.
Yes, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Salut. Bye. On poursuit l'émission. On va mettre la table sur la date limite des transactions, comme je vous disais, avec Hugues qui a été cherché, qui a amélioré ton son. Là. Je ne sais pas comment ça va sonner, si ça va sonner un petit peu mieux que précédemment. Tu étais. Donc, parle-nous donc. Ça va-tu bien, Hugues? Ça va?
Oui, ça va toujours aussi bien que ça allait en début de podcast. Ma blonde n'est toujours pas sur le point d'accoucher, donc on peut continuer le podcast, mais tout va bien.
Good.
Tout va bien.
Date limite des transactions, Hugues, c'est tu sais, chaque année, le portrait est un peu différent pour la date limite, mais cette année, il y a tellement d'équipes qui sont encore dans la course aux séries éliminatoires. Je pense que c'est vraiment l'année où les vendeurs sont les plus avantagés. Et sont probablement pas exactement ceux qu'on voyait en début de saison être vendeurs.
Vraiment pas.
Bon, regardons. Mettons, si on parle, là, les équipes qui, à notre avis, sont sûres de bouger, on n'avait pas les Rangers de New York. On n'avait pas les Canucks de Vancouver. On n'avait peut-être pas les Flames de Calgary. Les Jets de Winnipeg pourraient être vendeurs aussi. Là, soudainement, il y a des bons joueurs. Là. Les Devils du New Jersey qui ne sont pas dans une position présentement où on est en séries éliminatoires. Soudainement, il pourrait avoir des joueurs de qualité disponibles, mais à très haut prix. J'ai même pas dit les Blues de Saint-Louis qui sont une des équipes les plus intéressantes.
Ouais.
C'est le coût du joueur de location cette année va être extrêmement élevé. Tu penses-tu que ça va repousser une coupe d'équipe ou encore là, la folie va prendre le dessus comme un peu comme à chaque année?
Bien, à chaque année, il y a des transactions inattendues. Tu sais, on regarde toujours les joueurs qui sont tombés joueurs autonomes à la fin de la saison. Puis chaque année, il y a des transactions inattendues, des gars qui sont sous contrat pour encore quelques années qui bougent. Donc, je pense qu'on va probablement voir ça encore cette année. Ce qui est vraiment difficile par rapport aux années dernières, c'est que le classement était tellement serré pendant une bonne partie de la saison. Là, ça se dessert. Là, tranquillement, le peloton d'équipes en série diminue. Puis t'as, bon, des équipes qui coulent tranquillement. Mais vraiment, ce qui est différent cette année, c'est que on sait pas encore. Il y a des équipes qu'on sait pas dans quel camp ils vont se ranger encore. Est-ce qu'on va être vendeur? Est-ce qu'on va être acheteur? T'sais, le meilleur exemple, c'est, mettons, les Blue Jackets de Columbus. Ben là, début du mois de janvier, je t'aurais dit, c'est sûr que les Blue Jackets vont être vendeurs. Puis là, ben, 7 victoires de suite plus tard, ils sont à 4 points des Bruins de Boston, deuxième place de quatrième as. Donc là, peut-être qu'ils ne voudront pas vendre. Peut-être qu'ils ne vont pas acheter en fou, mais vont certainement, probablement pas vendre dans cette situation-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est difficile à dire. De l'autre côté, tu en as parlé, tu as des équipes qu'on ne voyait pas du tout être vendeurs avant la saison. Mais là, qui pourrait l'être. Tu sais, je regarde dans l'Est, là, bon, les Rangers, t'en as parlé, mais une équipe comme les Devils, qui sont avant-derniers dans l'Est, pas grand monde qui avait prévu ça. Les Panthers, je veux dire, je veux bien que les Panthers sont ils ont 3 runs jusqu'en finale de la Coupe Stanley, 2 championnats dans les 3 dernières années. Je comprends que ça commence à apparaître, qu'on pouvait se dire, bon, écoute, éventuellement, cette équipe-là, elle est les petits bobos, puis on l'a vu cette année avec leur nombre de blessés, mais personne ne les voyait si beaux au classement de l'Est. Mais là, les Panthers, ils sont face à un dilemme, là, sont à 8 points de la deuxième place de quatrième as. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Mais une équipe comme les Panthers, c'est pas l'équipe qui regorge de joueurs autonomes sans compensation à la fin de la saison. C'est une équipe qui a signé son loyer à long terme. Bon, des équipes comme les Maple Leafs, même chose, les Devils, t'as des joueurs qui sont signés à long terme là-bas aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va se dire, on fait rien, c'est une mauvaise année, on repart l'année prochaine, ou est-ce qu'on va profiter de la date limite des transactions pour dire, OK, on fait une transaction structurante, pas nécessairement un gars qui va être joueur autonome sans compensation à la fin de la saison, mais est-ce qu'on va il a décidé de bouger un gars qui est sous contrat pour encore quelques saisons, histoire de changer un peu la culture de l'équipe? ça reste à voir, mais je pense qu'on pourrait peut-être assister à ce genre de transaction-là parce qu'il y a tellement d'équipes qui c'était inattendu qu'ils soient là. Mm-hmm. Ces équipes-là vont peut-être essayer d'améliorer leur situation, faire une transaction structurante pour s'améliorer à long terme et pas juste être vendeur nécessairement dans le sens pur du terme. Je vends un joueur qui va tomber joueur autonome pour des choix au repêchage. Moi, c'est ça que j'ai hâte de voir.
Puis, tu as des équipes que leur statut fait qu'ils ont... Ils ont vraiment besoin de participer aux séries éliminatoires. Les Islanders de New York, première année de Mathieu Darche, il a gardé son entraîneur Patrick Roy. Darche va vouloir que les Islanders, qui sont troisième de la métropolitaine présentement, soient des séries éliminatoires pour prouver, écoutez, c'est moi le nouveau boss, puis regardez ce que j'ai réussi à faire. Les Red Wings de Détroit qui n'ont pas participé aux séries depuis je ne sais pas combien de temps, tu veux donner une run en série à ce noyau-là, comme les Canadiens ont fait l'année dernière. C'était important d'être des séries éliminatoires. Puis là, je t'ajoute, là, les Sabres de Buffalo, c'est la traversée du désert depuis tellement longtemps, on se doit d'être des séries éliminatoires. Les Blue Jackets, c'est la même chose, donner à ce noyau-là une petite présence en séries éliminatoires. Le Mammouth de l'Utah, tu es à ta deuxième saison en Utah, tu veux donner de quoi à tes partisans. Les Ducks d'Anaheim, tu es en remontée aussi. Pareil pour les Sharks. Tu as vraiment des équipes qui ont besoin, mais vraiment besoin d'être des séries éliminatoires. Donc, qui vont avoir faim. Puis à l'inverse, tu as des équipes plus vieillissantes qui vont faire, ben écoute, veux-tu tout vendre? Tu as les Capitals de Washington qui veulent donner aussi une autre présence en séries éliminatoires, Alex Ovechkin. Les acheteurs sont hyper nombreux. Puis, tu en parlais un petit peu de la cuvée de joueurs autonomes cet été n'est pas incroyable non plus, hein, Hugues?
Non, puis l'autre affaire, c'est que des gars qui pourraient être intéressants sur le marché des qui vont tomber joueurs autonomes sur le marché des joueurs de location, mais c'est des gars qui sont avec des équipes où on est un peu surpris de les voir en série. Mm-hmm. Je descends la liste rapidement. Alex Ovechkin, bon, il est pas, il bougera pas des Capitals de Washington, on le sait, ils vont jamais échanger. Mais tu regardes un gars comme Jacob Trouba, ben ça aurait peut-être été un candidat intéressant, sauf que les Ducks sont près de la porte des séries et je pense qu'ils vont vouloir le garder. Un Andersley avec les Islanders, tu viens d'en parler. Un Jake Kopitar, on va vouloir que ça se termine sa carrière sur une présence en séries éliminatoires. On voyait pas les Penguins de Pittsburgh en série, donc on se dit un gars comme Evgeny Malkin, est-ce que ça pourrait bouger? Oui, mais où sont les Penguins de Pittsburgh? Ils sont en série présentement. Donc, est-ce qu'ils vont bouger Malkin? Moi, je pense pas. Un gars comme Nick Schmaltz, même chose. Le Mammouth est dans une course pour les séries. Donc, je trouve que les gars les plus intéressants sont dans des équipes qui, malheureusement, ne vont pas vouloir les bouger. Tu sais, un autre exemple, un gars comme Alex Tuck avec les Sabres de Buffalo aurait été la cible. Peut-être probablement derrière Artemi Panarin, aurait été la cible à la date limite des transactions. Mais les Sabres sont en série présentement. Est-ce qu'on va échanger Alex Tuck, un gars qui a grandi pas trop loin de Buffalo, qui joue avec l'équipe de son enfance, qui a probablement une chance de re-signer à long terme avec
c'est
les Sabres,
ouais,
puis d'aider l'équipe en ce moment à faire une run en série? Je pense pas qu'on va l'échanger. Donc là, c'est comme ça revient un peu au point qu'on disait au début, il y a tellement beaucoup d'équipes qui sont proches des séries, d'équipes qu'on voyait pas, qu'on identifiait comme vendeurs au début de la saison, qui ne le sont finalement pas, que là, ça vient un petit peu brouiller les cartes. Donc, si t'enlèves ces gars-là que j'ai nommés qui pourraient être potentiellement intéressants, c'est vrai que, comme tu disais, la cuvée de gars, de joueurs de location qui vont tomber joueurs autonomes n'est pas extraordinaire. Là.
On vous en nomme quelques-uns qui, à notre avis, pourraient bouger, des noms qu'on lance, puis on en reparlera tantôt. Non, on va faire ça différemment. Non, je vais te parler d'équipe. Ouais, je vais te parler d'équipe qui pourrait être intéressante, puis les noms vont suivre, bien évidemment, avec tout ça. Ça va être encore plus simple. Deux clubs qui, à mon avis, vont être à surveiller, qui devraient être les plus actifs. Le premier, les Blues de Saint-Louis. Ils sont probablement l'équipe la plus intéressante. Tu as un Justin Faulk qui va être joueur autonome sans compensation. Tu as un Jordan Binnington qui... Est-ce qu'on doit tourner éventuellement la page sur Jordan Binnington à Saint-Louis? Quand il est avec les Blues, pas capable de livrer la marchandise, mais on sait qu'il peut le faire en série. Vient de le prouver avec l'équipe Canada. Son aura, son prix, appelle ça comme tu veux, a vraiment été rehaussé par sa performance avec l'équipe Canada. Robert Thomas, Jordan Kyrou, si on amorce une reconstruction chez les Blues, ces deux joueurs qui sont dans les discussions depuis quelques années, est-ce que tu peux reconstruire avec ces deux gars-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu en penses, Hugues. Tu t'attends à quoi de voir de la part des Blues? De la part de Doug Armstrong, qui est à sa dernière année comme directeur général avant de devenir président des opérations hockey, c'est Alex Steen qui prend la relève l'année prochaine. Les Blues, est-ce que tu fais table rase? Est-ce que tu échanges à peu près ce que tu peux pour vraiment relancer cette équipe-là qui n'a pas une tonne de bons joueurs? Dalibor Dorfsky peut-être, mais à part de ça, là, c'est pas c'est pas incroyable le bassin de jeunes des Blues.
Ben, je pense que les Blues vont, oui, effectivement, éventuellement, devoir apporter des changements. T'sais, cette saison, ils sont pas dans le portrait des séries. L'année dernière, ça a passé très près qu'ils ne fassent pas. Ils ont terminé, sont rentrés sans frise des séries. Souviens-toi, je me souviens bien, c'était comme dans le dernier match de la saison là, qui confirmait ou infirmait leur présence en série. Donc, est-ce que cette équipe-là va bouger, changer des choses? Moi, je pense que oui, tout à fait. Tu as nommé des gars qui pourraient changer d'adresse. Peut-être un Jordan Binnington, peut-être un Justin Falk là, qui reste une autre année de contrat. Bon, t'as nommé les deux gros noms, Jordan Kyrou, Robert Thomas.
J'ai dit Falk était joueur autonome sans compensation. C'est pas vrai, il reste une autre saison,
ouais.
J'avais un doute, là, puis je suis en train d'aller le vérifier.
c'est pas grave, mais tu sais, t'as nommé les deux gros noms. Je pense Kyrou et Thomas, c'est vers de ce côté-là qu'on regarde tous. Mais la réalité, est-ce que les Blues vont être capables de ficeler une transaction impliquant ces deux gars-là à la date limite des transactions quand tout le monde est pas mal serré sur le cap? T'sais, tu vas aller chercher un Robert Thomas, oui, c'est un bon joueur, sauf qu'il est encore sous contrat jusqu'en 2000, passé 2030.
Il reste 4 ans à lui, puis Jordan Kyrou.
Thomas, il reste 5 ans après cette saison. Même peut-être plus. Là, si, mais bref, il est encore sous contrat à très long terme, Robert Thomas. Kyrou, même chose. Donc, est-ce que tu vas être capable de ficeler une transaction à la date limite des transactions?
C'est 5 ans.
Les deux, c'est 5 ans. Donc là, est-ce que tu vas être capable de ficeler une transaction avec ces deux gars-là qui ont des clauses de non-échange à leur contrat? C'est pas simple avant la date limite des transactions de faire ça. Donc, est-ce que je pense que les Blues vont changer quelque chose? Oui. Est-ce que je pense que ça va être dans les prochains jours? Pas convaincu. Je pense que c'est plus le genre de transaction que tu fais au repêchage. Pendant l'été, quand les équipes ont la flexibilité, le temps de remanier leur truc un peu plus. Donc, oui, tout le monde aimerait mettre la main sur un Robert Thomas, un Jordan Kyrou, mais ça va être compliqué à faire point de vue du plafond salarial. Puis l'autre question, c'est le prix. T'sais, Robert Thomas, on va se le dire, puis même Jordan Kyrou, ça va coûter extrêmement cher à l'équipe qui va vouloir l'acquérir. Puis pas juste des choix au repêchage, pas juste des espoirs qui sont à quelques années de la Ligue nationale. Si les Blues veulent flipper ça rapidement, ils vont avoir besoin de joueurs qui vont les aider immédiatement. Puis ça, ben, les équipes qui veulent acheter un Thomas, ben, des fois, c'est difficile de donner un joueur qui peut aider qui peut aider les Blues immédiatement parce que tu en as besoin pour ta run en série. C'est pour ça que je dis que c'est des transactions qu'on va peut-être plus voir cet été. C'est ça, pour dire, pour les Blues, moi, c'est une équipe qui, je pense, va devoir changer des choses, mais peut-être pas dans les 10 prochains jours.
Les Canucks, on a été clair qu'on fait une reconstruction. Elias Pettersson est le plus gros nom, mais j'ai pas le goût de dire le meilleur, non. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais il est tellement décevant. Ces Olympiques ont été décevants aussi. Son salaire à 11,6 millions. Est-ce que c'est réellement possible d'échanger Elias Pettersson avec la réputation aussi? On sait ce qui s'est passé avec JT Miller. On sait que... Tu sais, moi, c'est la grande déception, Elias Pettersson, parce qu'avec ce qui s'est passé, puis t'as gagné un peu la chicane avec JT Miller, puis tout ça, puis c'est vers toi que l'équipe s'est tournée pour rester. Puis c'est ça que tu donnes cette année. Elias Pettersson, peut-il même bouger dans les conditions actuelles?
Peut-il bouger? Tout est possible. Je pense pas non plus.
Tu prends-tu une chance avec Elias Pettersson à qui il reste encore, après cette année, là, il reste encore 6 ans de contrat à 11,6 millions?
Je pense pas que je prends une chance. Ça dépend t'es quelle équipe, ça dépend ce que tu veux faire. Moi, je pense pas que tu prends une chance parce que son salaire est trop contraignant, la place qu'il prend sur la masse salariale est trop grande. Mais moi, je vois pas tant ça d'un point de vue d'acheteur, je vois ça du point de vue des Canucks, d'un point de vue de vendeur. À quel prix tu vas vendre Elias Pettersson? Mettons que tu réussis à le vendre. Il y a un gros contrat difficile à échanger, donc tu vas être pris pour, puis il ne reforme pas. Il a 34 points cette saison, donc tu vas être pris pour l'échanger pour vraiment pas cher parce que tu veux te débarrasser de ce contrat-là. Donc l'autre équipe va dire ben tu veux te débarrasser du contrat, OK. Mais là, moi, je vais pas payer la lune pour un gros contrat pour un gars qui n'est pas sûr de performer. Fait que là, les Canucks vont se retrouver pris à échanger à rabais un gars qui est présentement leur. Qu'on le veuille ou non, c'est quand même leur meilleur joueur, Elias Pettersson. Moi, je pense que les Canucks auraient tout avantage à essayer de régler le problème Elias Pettersson plutôt que de l'échanger et de regarder une autre équipe régler le problème. Imagine que tu l'échanges demain matin, je sais pas, tu dis, je vais l'échanger aux Blackhawks de Chicago. On va dire les Blackhawks de Chicago, ils ont besoin d'attaque, ils ont besoin de joueurs pour entourer Connor Bedard, puis ils ont de la place sur la masse salariale. Mettons, tu l'échanges, je n'importe quoi, tu l'échanges aux Blackhawks de Chicago, ben, puis il explose avec les Blackhawks de Chicago, ben, t'as pas réglé le problème. T'as juste échangé un gars à rabais que tu vas aller voir exploser ailleurs. Moi, je trouve que ça fait pas de sens pour les Canucks d'échanger Elias Pettersson. Je trouve presque que ça fait encore moins de sens d'échanger Elias Pettersson que d'être une équipe qui va aller l'acheter. Moi, je pense que les Canucks auraient tout avantage à régler le problème Elias Pettersson, parce que ça reste un gars qui a fait 100 points auparavant. Ça reste un gars qui était dominant. Donc, trouver une façon de régler le problème, je ne sais pas c'est quoi, relancez-le. Mais avant d'échanger un gars comme ça, soyez certain qu'il va pas rebondir, parce que ça peut te, je m'excuse de l'expression, mais ça peut te péter dans la face solidement.
Evander Kane, tu t'attends à ce qu'il se retrouve où? Parce que c'est la tradition, là, à Noël, tu laisses des biscuits puis une carotte pour le Père Noël puis son reine, ou à la date limite des échanges, tu échanges Evander Kane. Il va être preneur. Encore une fois, il y a une équipe qui va se tourner vers lui, selon toi?
Ben, je pense que oui, Evander Kane, ça reste un gars qui peut apporter ce que tu recherches un peu en séries éliminatoires, un attaquant d'énergie qui peut brasser, capable de marquer quelques buts. C'est un gars qui, historiquement, a quand même eu des relativement des bonnes performances en séries éliminatoires. Donc, je pense que oui, qu'une équipe va être acheteuse, sérieusement. Ça fait partie des candidats que les Canucks peuvent certainement échanger.
C'est quasiment le gros morceau, là, parce que je regarde ailleurs. Jake DeBrusk, je ne sais pas, c'est le morceau qu'il peut aller chercher, puis il n'a pas coûté cher. L'an dernier, 12 points en 21 matchs en séries éliminatoires. Cette année, 25 points en 56 matchs. Tu sais, tu me dirais, ils vont aller chercher un choix de deuxième, peut-être même choix de première ronde. Peut-être moins, ben, là, mais pour et... Kane.
Et puis, tu sais, si on peut retenir du salaire, peut-être aussi, parce que là, Kane, présentement, est payé à 5,125 millions. Là, donc, c'est peut-être un peu élevé pour ce qu'apporte, pour le rôle qu'une équipe prétendante va y offrir. Mais bon, si les Canucks retiennent 50% du salaire, puis là, ben, il nous coûte 2,quelques millions, ça devient un petit peu plus intéressant. Mm-hmm. Ça peut rapporter un peu plus aux Canucks dans une transaction, parce que là, retenir du salaire, il tombe joueur autonome à la fin de la saison. Donc, retenir du salaire sur Evander Kane, ça va disparaître des livres constamment. Au 1er juillet. Donc, ça peut valoir la peine pour aller chercher un petit peu plus.
Dans les équipes qui se doivent de bouger, l'Avalanche, je l'ai fait hier, on a échangé Samuel Girard et choix de deuxième ronde contre Brett Kulak. Surpris? T'es-tu surpris? Tu vois ça comment? Est-ce que ça ouvre la porte à autre chose selon toi?
Je pense que oui. Je suis pas surpris que les Canucks, les Pingouins aient rééchangé Kulak après être allé le chercher des Oilers d'Edmonton. C'est un peu une façon de rentabiliser encore plus l'échange qu'on a fait en envoyant Skinner en envoyant Jarry chez les Oilers. Je suis pas surpris. Je pense que l'Avalanche, pour eux, le gros avantage de ça, c'est on libère un salaire. On libère le salaire de Samuel Girard. On va chercher un Brett Kulak qui est payé seulement 2,75 millions de dollars d'ici la fin de la saison, tombe joueur autonome. Donc, on libère de l'espace sous la masse salariale. On va chercher un gars qui est peut-être un petit peu plus complet que Samuel Girard. Puis surtout, Kulak, on y pense pas, mais c'est un gars qui a joué beaucoup en série. Là. J'étais surpris, je regardais ça hier, mais je pense qu'il a joué près de 100 matchs en séries éliminatoires en carrière, Brett Kulak, parce que oui, il est allé en finale de la Coupe Stanley deux fois avec les Oilers d'Edmonton, mais il est allé en finale de la Coupe Stanley avec les Canadiens aussi en 2020, avec je suis mélangé dans les années, 2021. Donc, il a joué beaucoup en séries éliminatoires. C'est un gars qui est capable de jouer un peu tous les rôles, peut appuyer l'attaque est assez complet. Donc, à ce salaire-là, on se débarrasse du contrat de Girard puis on paye un choix de deuxième ronde puis on va chercher un Kulak. Je pense que ça fait beaucoup de sens. Ça libère de l'espace pour un autre geste, une autre transaction de l'Avalanche. Donc, je suis peut-être surpris de voir un gars comme Girard bouger parce que c'est pas, tu sais, il est encore sous contrat pour quelques saisons, mais je suis pas surpris que Kulak soit encore échangé. Je suis pas surpris que l'Avalanche fasse un move pour essayer de libérer de l'espace sur le plafond salarial.
Oui, parce que là, tu regardes, puis l'Avalanche est dans les équipes Il reste encore près de 8 millions d'espace sur le plafond salarial. Tu es capable de bouger là, un peu comme les Hurricanes sont dans une bonne position aussi. On a beaucoup d'espace sur le plafond. Ouais. Hugues, ça vient juste de tomber. Sidney Crosby, absence d'au moins 4 semaines pour chez les Pingouins. Ça vient tout juste d'être annoncé. Si t'es les Pingouins, présentement, tu es en deuxième place dans la section métropolitaine, mais t'as seulement... t'as 5 points d'avance sur les Blue Jackets. T'es chanceux, là, c'est dans la section atlantique qu'il y a plus d'équipes qui se battent pour une place en séries éliminatoires. Tu fais quoi, là, en sachant que Crosby va être... Tu vas être sans Crosby pour le prochain mois?
Moi, je pense que les Pingouins, ça va être le statu quo, malheureusement. Puis, tu sais, on l'a un petit peu vu avec... le genre de transaction que Carl Dubus
statu quo?
Statu quo, ça reste à voir, mais je pense pas que Carl Dubus va commencer à se lancer dans le marché des joueurs de location pour essayer de remplacer un Crosby. Probablement Crosby n'est pas remplaçable. Il y a juste personne qui va arriver à même 25% de ce que Crosby, que tu vas aller chercher, qui va offrir 25% de ce que Crosby te donne. Puis l'autre affaire, c'est qu'on le voit un petit peu avec ce que les Pingouins font. C'est Carl Dubus n'est pas en mode vente, mais il va chercher des actifs en même temps qu'il va chercher des joueurs. T'sais, là, il est allé chercher un choix de deuxième ronde avec Samuel Girard. Fait qu'il ne vend pas. Il a donné Kulak, mais il est allé chercher Girard. Girard, c'est un joueur qui peut aider l'équipe immédiatement, mais oups, il met la main sur un choix de deuxième ronde, un actif, parce que Carl Dubus, il sait que tôt ou tard, il va devoir reconstruire cette équipe-là. Donc, il accumule les actifs sans nécessairement vendre puis juste remplacer ça par des joueurs, des jeunes joueurs qui n'ont pas d'expérience. Je pense qu'il vend en allant chercher des actifs puis en essayant de rester dans la course aux séries. L'échange de Jarry, c'était la même chose. Oui, il échange Jarry, mais il va chercher un gardien qui le remplace. Il va chercher Brett Kulak aussi, qui a reflippé. Puis il est allé chercher aussi, je ne me trompe pas, un choix au repêchage avec ça. Donc, moi, je pense qu'il va garder le même modus operandi. Il va peut-être essayer de combler la perte de Crosby. Mais sans dépenser. De toute façon, qu'est-ce que les Pingouins ont vraiment à donner? Là, c'est une équipe dont les joueurs sont vieillissants avec pas beaucoup d'actifs côté des jeunes joueurs. Puis, les jeunes joueurs, parce que moi, j'étais les Pingouins, j'essaierais de les garder. Donc, moi, je pense que ça va être statu quo. On essaie de tenir le coup. Si on est capable de faire une transaction qui nous aide sans qu'on se débarrasse d'actifs immenses, je pense qu'on va le faire. Mais je serais surpris de voir Carl Dubus faire un gros, gros move pour... Mais tu sais, je peux me tromper.
Le plus gros actif des Pingouins, c'est le 11 millions sous la masse salariale, plus qu'on va aller chercher avec Crosby, là, qui est blessé.
Ouais.
Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut peut-être ramasser une équipe qui a la possibilité qui doit se débarrasser d'un salaire pour aller chercher un autre joueur? Tu parlais d'aller chercher un joueur plus un actif, un choix, quelque chose comme ça. Ça peut être une possibilité.
100%.
100%. Pour juste mettre un peu de viande autour de Crosby qui va être de retour et essayer d'avoir gardé l'avance que tu avais sur les Blue Jackets, toute autre équipe là, que de la section métropolitaine.
Oui, ça, je le vois.
Ça, je le vois. Je pense que c'est là que Caldobus pourrait être créatif puis tout ça. Dans les équipes qui vont se devoir de bouger, moi, je vois le Wild du Minnesota. On l'a déjà fait avec Quinn Hughes. Ça a été la grosse décision de la part de Bill Guérin. Mais le défi reste le même avec Quinn Hughes. Sortir de la section centrale. T'as l'Avalanche, t'as les Stars de Dallas qui sont là. Quand je regarde le Wild, je pense qu'on est à un centre numéro 2 de pouvoir se battre pour la Coupe Stanley. Quand je regarde cette équipe-là, on a des super bons gardiens, on a une bonne défensive, l'ajout de Quinn Hughes, ça fait que tu as une défensive de niveau élite avec ton avantage numérique. La ligne de centre est plus faible. Ryan Hartman comme deuxième centre, après Joel Eriksson-Ek, c'est pas super incroyable. Si t'es le Wild, tu bouges-tu? Est-ce que tu bouges pour un centre? Est-ce que tu échanges Jesper Wallstedt? C'est l'autre question. Es-tu prêt à monnayer Jesper Wallstedt, qui a vraiment fait démontrer des belles choses cette année, pour aller chercher ce centre-là, ou vu les prix? Puis tu sais, tu vas chercher qui comme centre?
Oui, bien, c'est ça. C'est que moi, je pense qu'il n'y a pas de... Je pense que sur le marché des joueurs de location, les gars qui tombent autonomes à la fin de la saison, je pense pas qu'il y a de centre qui peut répondre aux critères recherchés par le Wild. Tu as parlé d'un deuxième centre.
Non.
Ben, je vois pas vraiment.
Ben, je vois Nazem Kadri, je pense, qui va être
le.
Dans l'optique où les Predators et Ryan O'Reilly sont dans la course aux séries éliminatoires, je pense que ça fait de Nazem Kadri la belle du bal. Là. Il y a une équipe qui va payer le prix incroyable pour aller chercher Nazem Kadri.
Oui, sauf que Nazem Kadri est encore sous contrat pour 3 autres saisons après celle-ci. Il n'est pas autonome à la fin de la saison.
Ouais.
Donc, moi, je te parle... Effectivement, Nazem Kadri, très bonne cible. Mais moi, je te parle d'un gars... Tu sais, je te parle parmi les gars qui tombent joueurs autonomes à la fin de la saison, là, qui ne te coûteront pas, mettons, un Wallstead à aller chercher. Là. Il n'y a pas vraiment de gars qui répond aux critères de deuxième centre, à mon humble avis. À cette heure, Bill Guérin a prouvé, avec l'échange de Quinn Hughes, puis par les dernières transactions qu'il a faites, les derniers gestes qu'il a faits, qu'il n'a pas peur de faire un gros, excusez-moi l'expression en anglais, mais un gros splash, un gros coup d'éclat. Donc, est-ce que j'échangerais un Wallstead? Ça dépend de ce que tu vas chercher en retour. Est-ce que j'échangerais un Wallstead contre un Nazem Kadri, un attaquant qui est vieillissant? Là? Il a quand même 35 ans, Nazem Kadri. Il a ralenti cette saison. Pas certain. Est-ce que Bill Guérin voudrait le faire? Ça se peut qu'il veuille le faire, qu'il joue son va-tout, puis on met toutes les chips à la table, puis on y va. Je sais pas, Nazem Kadri, ça serait une bonne cible, mais je sais pas ce serait quoi le prix pour l'acquérir. Je pense que Bill Guérin va faire un move, mais s'il va aller chercher ce deuxième centre-là, il va peut-être essayer d'aller chercher un deuxième centre qui va pouvoir s'insérer avec l'équipe à un petit peu plus long terme, qui sera pas nécessairement un centre vieillissant, un gars plus jeune, c'est-à-dire échanger peut-être, un Wallstead, mais contre un gars plus jeune, qui, ça reste à voir, là, parce que là, si tu vas chercher un gars qui est sous contrat encore, ça peut être un gars n'importe où dans la ligue, c'est difficile à dire, là, c'est vraiment le genre de transaction qui va prendre un peu tout le monde par surprise, un peu comme la transaction Quinn Hughes, on s'y attendait pas. Donc moi aussi, je pense que le Wild doit bouger, mais comment et à quel prix, ça reste à voir, mais est-ce qu'un Wallstead peut bouger avec la réputation de Bill Guérin? Assurément, d'autant plus que Philippe Gustafsson est sous contrat à long terme là, avec le Wild. Là. Donc, tu défais pas nécessairement ton plan devant le filet à long terme si tu échanges un Wallstead, mais peut-être qu'il va vouloir aller chercher quelque chose de plus jeune qu'un Kadri.
Ouais, parce que tu regardes un Wallstead, le problème, c'est que tu sors pas beaucoup de salaire si tu l'échanges. Parce que si t'es, par exemple, t'es les Blues.
Non, c'est ça.
Robert Thomas, dans une transaction où tu échangerais Robert Thomas contre Wallstead et des atouts, ben quand même, le salaire de Robert Thomas, le Wild peut probablement pas se le payer présentement, encore moins pour les prochaines années.
Non.
Parce que tu peux pas retenir de salaire parce que son contrat est tellement long. Si tu retiens du salaire, tu le retiens pas seulement pour une année.
C'est ça.
Tu le retiens pour longtemps. Fait que oui, ça serait un joueur parfait. Ça ferait de cette équipe-là une équipe qui peut gagner la Coupe cette année, absolument. Mais comme tu dis, ça va être compliqué. On s'est peinturé dans un coin. C'est un sacré beau coin, le Quinn Hughes.
Ouais.
On s'entend, là. C'est le genre de coin que tu veux te peinturer, mais ça va être difficile pour le Wild de bouger. Les Oilers, l'histoire se continue, se répète. Est-ce qu'on va être capable de bouger pour aller chercher un peu d'aide autour de Connor McDavid? Tu sais, avec la réalité olympique, là, McDavid va revenir un peu fatigué, tout ça. Les Oilers, là, t'es-tu réellement all-in cette année? Là? Quand tu regardes la manière que l'équipe a joué, oui, présentement, on est deuxième de la section Pacifique, mais on a 64 points en 58 matchs. Je veux dire, au niveau du pourcentage de points, là, ça ne nous place pas dans l'élite de la Ligue nationale présentement. Là, pour te dire, les Oilers, présentement, on est 16e. Ben voilà, on est 16e au niveau des points à la pause du calendrier de la Ligue. Les Oilers, tu fais quoi cette année? Es-tu réellement encore une équipe qui peut aller chercher la Coupe cette année?
Ben, ça me paraît parce que l'année dernière, on disait un peu ça aussi, tu sais. Est-ce qu'ils peuvent vraiment retourner en finale de la Coupe Stanley, les Oilers? Ils sont allés une fois, puis finalement, on a eu droit à deux finales consécutives contre les Panthers de la Floride. Donc, moi, je ne vais pas parier contre Connor McDavid et Leon Draisaitl. Je pense qu'ils peuvent retourner en série. Maintenant, tu sais, est-ce qu'on va être capable d'améliorer cette équipe-là? Ça reste à voir, ça va être difficile. Mais je pense que les Oilers sont condamnés à être all-in. Parce que, bon, t'as re-signé Connor McDavid pour 2 autres années. Là, lui, Connor McDavid, il veut voir, là, c'est tu sais, il faut que ça se passe dans les 2 prochaines années pour les Oilers. Sinon, là, Connor McDavid, il va se dire, là, est-ce que mes chances de gagner ici sont vraiment, tu sais, sont vraiment bonnes, parce que je devrais pas aller voir ailleurs plus tôt. Donc, moi, je pense que pour ça, pour cette année puis les 2 autres prochaines, les Oilers sont un petit peu condamnés à y aller all-in. Maintenant, y aller all-in, comme je disais, c'est pas ce qu'ils vont être capables de mettre la main sur un joueur d'impact qui peut faire la différence. Ça reste à voir, mais je pense qu'ils n'ont pas le choix. Je pense qu'ils n'ont pas le choix d'y aller all-in.
T'es les Sabres de Buffalo. Tantôt, j'ai nommé des équipes qui ont besoin de faire les séries éliminatoires. T'en es-tu une? T'en es-tu une que tu vois bouger? Je regarde Buffalo, là, ça allait tellement bien avant la pause. Là. Est-ce que tu touches à cette chimie-là ou la réalité olympique, cette pause-là, justement, pour ces équipes-là, as-tu l'impression qu'il y en a une couple qui vont connaître un réveil difficile quand ça va reprendre le jeu et ils pourront pas garder le rythme qu'il y avait à ce moment-là?
C'est possible. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont peut-être d'équipes qui n'étaient pas dans le portrait des séries, qui vont peut-être profiter de la pause. Une équipe comme les Capitals de Washington va peut-être en profiter pour remonter un petit peu. Mm-hmm. Une équipe comme les Sénateurs d'Ottawa, qui a, t'sais, a connu sa part de problèmes puis un peu de distraction.
Si on peut faire des arrêts aussi chez les
c'est
Sénateurs.
C'est ça, exactement.
Ça aider,
parce que est-ce que la pause va avoir aidé les gardiens? Ça, on le souhaite. Donc, moi, je vois peut-être des équipes qui vont... Sincèrement, une équipe qui est dans le portrait des séries qui va redescendre. Je vois peut-être des équipes qui sont en bas qui vont profiter de la pause pour remonter puis resserrer un peu la situation au classement. Une équipe comme les Sabres de Buffalo, moi, je pense que oui, je bougerais, j'irais chercher un peu d'aide sans nécessairement partir en fou puis dire on va faire plein d'acquisitions puis on veut essayer d'aller jusqu'au bout cette année. C'est peut-être pas réaliste, mais je pense qu'il faut que tu récompenses ce groupe-là qui, honnêtement, on va se le dire, c'est pris en main. Là, après l'arrivée de Jarmo Kekalainen, cette équipe-là, ça allait un petit peu nulle part comme d'habitude au début de la saison. Puis là, finalement, on a viré ça de bord, puis on a vraiment décidé qu'on poussait tout dans la même direction, puis ça fonctionne bien. Donc, moi, je pense que tu dois récompenser ça sans nécessairement aller chercher un joueur qui va tout briser ta chimie d'équipe. Mais tu sais, souviens-toi, l'année dernière, les Red Wings étaient, pendant un bout de la saison, c'est-tu l'année dernière ou l'autre d'avant? En tout cas, étaient pas trop loin de supporter des séries, puis Steve Yzerman n'avait rien fait, puis Dylan Larkin avait un petit peu dénoncé ça à la fin de la saison. Il avait dit, je paraphrase, mais tu sais, laissé entendre qu'il aurait aimé avoir un peu d'aide, donc tu sais, qu'il aimait avoir été récompensé, puis tu sais, je pense que c'est un peu la même situation chez les Sabres. T'as pas fait les séries depuis longtemps, tu joues bien présentement, bien, je pense que c'est l'occasion de récompenser l'équipe.
Ouais, les Sabres qui n'ont plus de choix de deuxième ronde, on se souvient, ils l'avaient échangé dans la transaction Josh Norris, Dylan Cousins. Mais on a un choix de première ronde, donc c'est peut-être l'année où tu l'échanges en espérant pas planter du nez. Puis finalement, c'est un choix qui... Protège-le, hein? S'il est top 5, là, ben, par exemple, dans la loterie, là, protège-le.
Ouais, c'est
ça. Parce que si t'es Kekalainen, là, c'est une bonne... ça serait typique que c'est ça qui arrive au Sabre. Ça serait l'année là, que ça pourrait tout soudainement tout prendre le bord. Parce que c'est ça la réalité. Il y a des équipes que la pause va avoir fait extrêmement mal parce que ça va avoir stoppé l'élan. Puis à l'inverse, il y a des équipes, comme tu dis, tu sais, les Jets de Winnipeg, peut-être aussi c'est une équipe qu'on voyait tellement plus haut. Tu sais, Connor Hellebuyck va-t-il revenir puis soudainement être une superstar puis tout arrêter? Pas impossible aussi, c'est une des équipes qui peuvent... Il y a tellement les équipes... Je veux dire, Toronto... Tu vas te mettre en mode vente, Toronto, mais c'était pas ça le plan. Les Devils du New Jersey, tu vas te mettre en vente alors que c'était pas ça du tout le plan. Puis peut-être, quand tu regardes ce que les Sabres ont fait cette année, une séquence de 10 victoires de suite, soudainement, tu étais dernier de la Ligue, puis là, tu es en position pour faire les séries éliminatoires. Juste une séquence de 5 victoires de suite, ça te replace complètement dans une section qui est super serrée. On dirait que je ne m'attends pas à une date limite des transactions super active. Puis je me dis, s'il y avait eu tant de transactions à faire, quand le gel a été levé, lundi ou dimanche soir,
dimanche à minuit.
Dimanche à minuit, il y aurait eu quelques annonces. Il y aurait eu déjà des DG qui auraient... Là, on va avoir quelques journées pour mardi, mercredi, peut-être ça va se mettre en branle, mais ça va être à la dernière minute, puis je pense pas que ça va être super incroyable. T'es les Panthers, tu fais quoi?
Ben, écoute, les Panthers, là, c'est...
Cette équipe-là, peux-tu gagner sans Alexander Barkov?
La réponse, je pense qu'on l'a eu. La réponse, c'est non.
C'est
cette équipe-là ne peut pas gagner sans Alexander Barkov. Je veux dire, son 8e sur 10 dans l'Association de l'Est, sont à 8 points des séries présentement. C'est une équipe, on en parlait un petit peu plus tôt, mais c'est une équipe qui est en train de payer le prix pour ses trois séjours jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Ses deux conquêtes dans les deux dernières années. Là, on a beaucoup de blessés cette année. On a Barkov présentement. On a eu Kachuk quasiment. Il est revenu au mois de janvier. Tkachuk. T'as des gars de soutien comme Nosek, t'as un gars comme Kulikov qui est pas là. T'as Jones qui s'est blessé aussi. Donc, on sent vraiment qu'ils payent le prix pour le nombre de matchs de hockey qu'ils ont joué dans les trois dernières saisons. On sent qu'ils payent le prix. Maintenant, les Panthers, tu regardes leur structure, tu regardes les gars qui sont sous contrat en Floride, c'est une équipe qui est condamnée à gagner. Donc, est-ce que les Panthers, parce qu'ils sont pas en série présentement, vont vendre, vont essayer d'aller chercher des actifs? Peut-être qu'ils vont vendre des joueurs autonomes qui savent qu'ils reviendront pas. Peut-être qu'un gars comme AJ Greer, ça peut s'intéresser à une équipe pour les séries éliminatoires, peut-être. Un Luke Cunningham, des gars des joueurs de soutien. Mais tu sais, je pense... Tu regardes la structure salariale. Peut-être, mais tu regardes la structure de salariale de cette équipe-là. C'est coulé dans le béton. Il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre, de flexibilité pour Bill Zito. Donc, moi, je vois juste cette équipe-là va dire hey, c'est quoi? On a bien des blessés. On a joué beaucoup dans les dernières années. C'est pas notre saison cette année. Regarde, on manque les séries, mais on va pas tout changer non plus. De toute façon, notre noyau est sous contrôle. On est condamné à essayer de gagner avec ces gars-là. On essaie de revenir fort l'an prochain. Tu sais, des fois, t'as pas le choix. Puis je regarde les Jets de Winnipeg, c'est un petit peu dans la même situation. C'est sûr qu'il y a peut-être un peu plus de moins de profondeur à Winnipeg, des choses à améliorer, mais on va pas tout changer. Là. Les Jets sont condamnés à gagner avec le noyau de Connor, Scheifele, Villardy, Morrissey et Hellebuck. Ben, c'est un peu la même chose chez les Panthers. On est un peu condamnés à gagner avec cette équipe-là. Donc moi, je m'attends pas à grand-chose des Panthers, là, si ce n'est que peut-être des moves assez mineurs.
Oui, ben c'est ça. Ça ne serait pas une petite réinitialisation. Souviens-toi, le Lightning de Tampa Bay, là, en 2014-2015, avait atteint la finale de la Coupe Stanley. Puis deux ans plus tard, on manquait les séries éliminatoires. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? On a fait les séries éliminatoires deux années de fil par la suite. Et ensuite, ça a commencé les deux conquêtes de la Coupe Stanley, la finale aussi. Donc, tu replaces un peu pendant deux ans. Je pense que faut que tu sois patient. Faut que tu vives avec la réalité de ce qui s'est passé cette année en Floride. Puis, on reviendra l'année prochaine. Hugues, je te nomme quelques noms. Des joueurs qui pourraient être intéressants. Si on avait à faire notre tableau de joueurs qui pourraient changer, on a parlé de Patterson, Kadri, Vincent Trocheck, on a parlé de Thomas Kyrou aussi chez les Blues, Ryan O'Reilly, chez les défenseurs, Mackenzie Weegar pourrait attirer de l'attention, Justin Falk à qui il reste un an de contrat, Dougie Hamilton, on sait ce qui s'est passé plus tôt dans la saison. Ouais. Visiblement chez les Devils, Hamilton aurait peut-être besoin d'un changement d'environnement parce que ça va pas très bien. Luke Shen, j'ai parlé de Jordan Binnington chez les gardiens. Choisis-moi un nom là-dedans où tu le vois aller. Veux-tu que je commence?
Oui, commence donc, Monique. Je te laisse y aller.
Je vais commencer. Je te prends un peu par surprise. Je vais te laisser. Vincent Trocheck, les Rangers. Encore là, les Rangers, c'est une reconstruction. On verra bien combien de temps va prendre. On se souvient que l'année dernière, la dernière avait été quand même assez rapide. Trocheck, je le vois aller. Ben, je le vois aller chez les Ducks, hein? Le pipeline est assez effectile. Comment? Ouais, la connexion.
La connexion est là. Le contingent des Rangers est rendu là. Trouba, Ryder.
Exactement. Donc aller rejoindre Jacob. Ouais, aller rejoindre Jacob Trouba, aller rejoindre Chris Kreider chez les Ducks. Parce que les Ducks, t'as besoin d'aller en séries éliminatoires. T'as besoin de donner à ce jeune noyau-là une présence, de l'expérience. Puis quand tu regardes cette équipe-là, bon, présentement, on est au classement, on est l'équipe de 4e mars. C'est la deuxième équipe de 4e mars, donc c'est loin d'être fait. T'as les Kings de Los Angeles qui, avec l'acquisition d'Artemi Panarin, on va voir ça dès ce soir, d'ailleurs, là, qui vont avoir un souffle nouveau, même si on a perdu Kevin Fiala pour le reste de la saison. Donc, je le verrais se retrouver chez les Ducks lui aussi. La formation des Ducks présentement, Leo Carson, Mason McTavish, je pense que d'ajouter un centre d'expérience à ce groupe de deux-là, ça serait assez important. Oui, Granlund peut jouer au centre, mais d'ajouter un Trocheck qui vient de faire équipe États-Unis aux Olympiques, ça serait vraiment un gros, gros plus. On a quelques blessés, là, on verra bien là, avec le retour. Là, je pense que relativement tout le monde va être en santé. C'est un bon club, mais c'est un club qui est jeune. Tu ajoutes un Vincent Trocheck, ça sera un gros plus. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui reste comme atout chez les Ducks. On a beaucoup de place sous le plafond salarial, ça c'est sûr. On a tous nos choix de première ronde cette année. On a On a 5 choix de deuxième ronde dans les 3 prochaines années aussi. Donc, il y en a des atouts chez les Ducks. C'est le temps de faire un peu comme les Canadiens. Là. On peut arrêter d'empiler les espoirs, passer au prochain niveau, puis d'aller chercher un joueur comme Trocheck. Ryan O'Reilly, peut-être, ça serait une solution. Ton côté, Hugues?
Moi, sais-tu qu'est-ce qui m'est... Je trouve, je réfléchis à ça, je dis pas que ça va se passer, mais un fit que je trouverais quand même intéressant, t'as parlé de Dougie Hamilton, puis c'est pas un move nécessairement pour le maintenant, parce que ça veut pas dire qu'ils vont faire les séries, mais moi, Dougie Hamilton, je le verrais peut-être avec les Sharks de San Jose. Tu sais, quand tu y penses, là, les Sharks, il leur manque tellement ça présentement, un carrière offensif, un gars capable de runner un power play. Tu sais, t'as un gars comme t'as Klingberg, t'as Orlov qui peut faire le travail, tu sais, qui est capable de générer un peu d'attaque, mais un gars relativement pur offensivement, avec un bon tir, capable de diriger le jeu de puissance, qui peut relancer l'attaque, ça manque un peu aux Sharks de San Jose. Leur grosse faiblesse, c'est oui, on a Macklin Celebrini qui est juste incroyable, c'est hallucinant. On a un Will Smith, on a un Toffoli, on a des éléments intéressants en attaque, on est capable de marquer, mais la grosse faiblesse de cette équipe-là, c'est la brigade défensive. Puis c'est une brigade défensive en plus qui va être à refaire complètement à la fin de la saison. Je regarde présentement, là, dans leur, ils ont Klingberg qui tombe joueur autonome, ils ont Mario Ferraro, ils ont Timothy Lilgren, Vincent Desharnais, Mukhamadoulin qui va être joueur autonome avec compensation, puis Orlov à qui il reste une autre année. Donc c'est une équipe qui doit cette saison refaire sa brigade défensive, puis ça tombe bien parce que Dougie Hamilton, il reste 7 saisons puis 2 autres années de contrat, si je ne me trompe pas, avec les Devils du New Jersey. Donc, on dirait que je vois le fit là-bas. Tu sais, t'as une équipe qui a besoin de rebâtir sa défensive, puis quoi de mieux que d'aller chercher un gars comme Hamilton, un gars qui peut t'aider immédiatement pour ton push pour les séries, parce que là, les Sharks sont juste à quelques points des séries présentement. Au moment où on se parle, sont à 5 points des Ducks, donc ils peuvent encore y croire. Donc, ça t'aide pour ta essayer de faire les séries, puis ça te bâtit une partie de ta défensive à partir de l'été prochain parce que tu l'as sous contrat pour encore 2 ans. Puis tu sais, Dougie Hamilton, il y a des clauses de non-mouvement à son contrat. Là. Je pense qu'il y a des choses qui choisit un peu. Là, il va vouloir jouer. Il peut pas être échangé demain matin n'importe où sans droit de regard là-dessus. Mais tu sais, il y a 2 ans, ça aurait dit à Dougie Hamilton, tu veux-tu aller à San Jose? Probablement que ça n'aurait pas tenté. Mais là, tu dis à un gars, hey, ça tente-tu d'aller à San Jose? Tu vas jouer avec Macklin Celebrini, qui est le prochain Sidney Crosby, le prochain visage de la Ligue nationale. Ça devient vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Puis je trouve que le fit est là, honnêtement. Fait que ça, on voit que c'est quelque chose que je verrais pas nécessairement là dans les 10 prochains jours, mais peut-être cet été. Pourquoi pas?
Écoute, je le vois dans les 10 prochains jours parce que les Sharks sont l'équipe qui a le plus de place sous la masse salariale présentement. Oui, Hamilton a une saison vraiment difficile, 21 points en 52 matchs. Oui, c'est un joueur qui est fragile, mais tu sais, il ne coûtera pas une fortune si les Devils ont une chance d'échanger Dougie Hamilton. Je veux dire, c'est plus lui qui est sur le premier avantage numérique. Luke Hughes a pris l'avance. Regardez les Olympiques que Simon Nemec a eu aussi.
Ouais, il était vraiment
c'est un
bon
joueur à qui tu veux faire de la place. Ouais. T'as une chance d'échanger Dougie Hamilton. Il est partant pour aller. Puis comme tu dis, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, le Celebrini, qu'est-ce qui va revenir des Olympiques, comment il va se comporter, parce que c'était beaucoup de hockey, c'était du gros hockey avec des méchants gros noms. Ça se peut que ce gars-là revienne encore meilleur qu'il était. Comme tu dis, je suis Dougie Hamilton. La région de San Francisco, c'est magnifique pour élever une famille. Hey. Je sais pas s'il y a des enfants. J'écoute. Je trouve que ça a beaucoup de sens. Peut-être que ça ne marchera pas comme on le pense. La dernière fois qu'on a fait un gros échange comme ça chez les Sharks, on est allé chercher un certain Eric Carlson. Ça n'avait pas marché comme on l'espère, mais je n'ai pas ça pour 2 ans. Après ça, il reste 2 ans de contrat. Au pire du pire.
Mais c'est parce que, tu sais...
Ça, on voyait pas les Sharks, là, cette année, là, de toute façon. Là.
Non, mais tu sais, puis c'est parce que j'aime le fait qu'il est encore sous contrat à long terme. Tu sais, l'exemple de Carlson est super bon, sauf que Carlson, on est allé chercher un peu dans son prime, puis on a payé extrêmement cher pour l'obtenir. Tu sais, tu l'as dit, Dougie Hamilton va peut-être pas coûter... va coûter la moitié de ce que Carlson a coûté. Donc, moi, je trouve que ça pourrait être intéressant. Puis les Devils, si t'en as parlé, ont vraiment une congestion. Ben, pas une congestion, mais, tu sais... Éventuellement, si on veut faire de la place à Nemec, il faut bouger un faut bouger quelque chose en défensive. Donc, moi, je sais pas, je vois ça, là, je lance ça comme ça. C'est pas du tout une, c'est pas du tout une prédiction parce que de toute façon, prédire des transactions, prédire des transactions, c'est un exercice extrêmement périlleux. Parce que là, tout ce qu'on va dire aujourd'hui, peut-être que dans deux semaines, écoute, ça ne sera pas produit. C'est tellement difficile à dire, mais moi, en tout cas, je vois le fit. Fait que disons juste ça comme ça, je vois un fit.
Puis si Mike Greer et Tom Fitzgerald se souviennent de leur cours de français, peut-être à la petite école, peut-être nous écoutent, ça va peut-être donner des idées. Mais les Sharks ont deux choix de première ronde aussi. Mais je pense même pas qu'Hamilton, je sais pas combien d'Hamilton. Si les Devils étaient dans la course aux séries éliminatoires, on aurait une autre discussion. Je pense que tu le gardes, tu peux pas te priver d'un gars-là. Mais avec ce qui s'est passé, il a été laissé de côté une fois cette année en plus. Ça sert la transaction. Ouais. Tout est en place pour... En tout cas, si je suis les Sharks, effectivement, j'écoute. Il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, écoute, Hugues, on va regarder tout ça. On va suivre tout ça d'ici à la semaine prochaine. Vendredi prochain, 6 mars, date limite des transactions. Toi, d'ici là, tu vas peut-être avoir fait une acquisition.
Oui.
Un petit enfant. C'est-tu une petite fille, petit gars, c'est-tu?
Ouais, une petite fille.
Petite fille. Donc, deuxième enfant dans ton cas qui s'en vient. Donc, probablement, si tout va bien, tu ne seras pas là. Si ça serait la grosse possibilité, je te souhaite que ça aille très bien. Puis, ça me fait plaisir. Chers auditeurs, vous suivez-nous. Site de lnh.com. D'ici à la date limite des transactions, on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. À la date limite des transactions, on vous fait vraiment en direct. On va sortir tout ce qui est échange et tout ça. Donc, ne ratez pas ça. Et notre prochain rendez-vous, prochain balado, pas de mercredi prochain. On prend une petite pause. On va se garder ça pour vendredi tout de suite après la date limite. Merci, Hugues, d'avoir été sur le balado aujourd'hui.
Ça fait plaisir, mon Nick.
Merci à Guillaume Lepage qui était là aussi plus tôt. Merci, chers auditeurs, d'avoir été là et on se reparle très bientôt.